Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Saint Jean-Baptiste, vous le savez, c'est le plus grand des enfants des hommes. C'est ce que dit le Seigneur de lui, il est difficile de faire un compliment plus grand de quelqu'un, le plus grand des enfants des hommes. Jean-Baptiste, parfois, on l'a un petit peu oublié. En tout cas, surtout nous, en Occident, on a tendance à l'oublier, même s'il est fêté deux fois, il est fêté en janvier, et il est fêté maintenant, il est fêté dans son martyre, et il est fêté dans son témoignage de vie. Saint Jean-Baptiste, c'est le dernier des grands prophètes, c'est celui qui achève en lui-même l'Ancien Testament en désignant le Christ, non pas achevé au sens de fini, au sens de récapituler, exalter, et il désigne le Christ. Vous le savez, Jean-Baptiste, c'est celui qui va dire « Voici l'agneau de Dieu ». C'est ce qu'attendait le peuple juif depuis sa naissance. C'est ce que l'humanité attendait sans le savoir depuis la chute d'Adam et Ève, le salut qui vient de Dieu. Voilà ce qui est Jean-Baptiste. Alors je dis un petit mot de Jean-Baptiste et je dis ensuite un petit mot de ce qu'il peut nous apprendre pour ce qui est une vocation. Car cette personne toute particulière qu'est le Baptiste peut nous apprendre beaucoup sur la manière dont il a rencontré Dieu. Tout d'abord, Jean-Baptiste, en lui-même, et dans son enfance et dans sa vie, a été un personnage étonnant. Dans son enfance, vous le savez, il tressaille d'allégresse dans le sein de sa mère. Une grâce toute particulière qui lui est donnée à l'approche du Seigneur. Il y a chez les enfants, et c'est fréquent en fait, des grâces toutes particulières. Pour ceux qui se sont déjà occupés de tout petits enfants, eh bien, il y a ce qu'on appelle un âge mystique, et on se rend compte que les enfants, immédiatement, sont en mesure parfois de dire des choses d'une grande profondeur, si on veut bien y prêter attention. Vous ne savez peut-être pas, parce que vous venez le dimanche soir, mais j'aime à interroger les enfants à la messe, et souvent, ils disent des choses incroyables. Ce matin, je leur ai demandé pourquoi Jean-Baptiste était particulier, et on m'a dit « parce que dès son enfance, il a parlé, et oui, il a tressailli dès le sein de sa mère, il s'est exprimé, ce qui est banal en fait pour un enfant, mais ce qui ne l'est pas à l'approche du Seigneur. C'est-à-dire qu'il a révélé à sa propre mère que le Seigneur venait. Et puis on m'a dit « oui, il était destiné à être saint ». Alors oui, Jean le Baptiste a quelque chose de particulier, il est pris au milieu des hommes, c'est le cousin du Seigneur, certes, mais c'est surtout celui qui, dès le début, est marqué très spécialement. Il va rompre avec l'habitude de sa famille, dès son baptême, ça s'appelle la circoncision chez les Juifs, hein, ça ne concernait que les garçons, mais c'est à peu près la même chose, c'est une consécration au Seigneur, et dès sa consécration, on se rend compte que sa vie ne va pas être banale. Parce que contrairement à l'habitude, il aurait dû s'appeler Zacharie, et c'était bien normal, dans le monde sémitique, on s'appelle comme son père, le deuxième de la famille s'appelle comme le grand-père, le troisième s'appelle comme l'oncle, enfin rien que de très normal. Et puis voilà, au lieu de s'appeler Zacharie, comme le pense tout l'entourage de la famille, puisque le père ne peut plus parler depuis qu'il a eu une vision, eh bien on lui dit « il va s'appeler Zacharie ». Eh bien non. Il ne va pas s'appeler Zacharie parce que Dieu a un projet particulier. Et son nom sera Jean, Johannes, Yesh, Yahanna en hébreu, Dieu fait miséricorde. C'est-à-dire que son nom révèle qui il est. Dieu a fait miséricorde à cette femme stérile, âgée, pour qui la question était entendue, elle n'aurait pas de descendance. Dieu a fait miséricorde. Et Jean est survenu. Effectivement, Jean, dans sa vie, va être un être étonnant. Lui qui est fils de grand prêtre, d'une lignée de grands prêtres, et on sait que et son père est d'une lignée de prêtres, et sa mère est une lignée de prêtres, eh bien, très naturellement, on attendait que Zacharie officie dans le temple. Se marie, assure une descendance à la tribu des Lévites, et puis offre des sacrifices à Jérusalem. Mais voilà, Zacharie va choisir une autre voie. Il va rompre avec la tradition de sa famille ce qui est déjà manifesté dans son nom à sa naissance. Il va quitter le temple, il va se situer au désert, c'est-à-dire quitter tout, quitter le monde, et non pas s'insérer dans la cité. Et surtout, il va vivre célibataire, c'est-à-dire il va faire ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas imaginable dans la tradition juive, il ne va pas engendrer charnellement. Oui, Jean le Baptiste, quand nous disons qu'il est le précurseur, c'est pas simplement qu'il est venu avant le Christ, de quelques mois. C'est qu'il est le précurseur du sacerdoce tel que nous le connaissons et tel que nous le vivons encore. On s'interroge parfois souvent sur l'utilité du sacerdoce et surtout l'utilité du célibat apostolique. Replongeons-nous dans l'histoire de l'Église et contemplons son enracinement dès avant le Christ dans Jean le Baptiste, qui manifeste très clairement cette consécration totale, permanente, qui ne suppose aucun autre engagement. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, traditionnellement, dans l'Église, on ordonne autour de la Saint-Jean-Baptiste. En fait, on ordonne entre Jean le Baptiste, le précurseur du sacerdoce catholique, et Saint-Pierre et Saint-Paul, les deux colonnes de l'Église et de la foi. Les deux nous disent quelque chose de l'engagement du prêtre dans la cité qui est particulier. Voilà ce que je voulais dire de Jean-Baptiste. Finissons juste en un mot. Il finira, et je le dirai dans la préface, en rendant le plus beau témoignage, celui de la vérité. Jean-Baptiste n'est pas venu pour fâcher qui que ce soit. Il est venu pour vivre de la vérité complètement. Il a prêché un baptême de conversion et vous le savez, il trouvera la mort simplement en confessant la vérité. Il n'est pas mort en confessant le Christ, hein. Il a confessé le Christ, qui est le Seigneur, qui vient, il l'a désigné, il a eu cette chance, il est le dernier des apôtres qui désigne l'agneau de Dieu. Hein, si nous étions dans une église de tradition orientale, avec un iconostase, peut-être le savez-vous, je vous invite à aller visiter celui qui vient d'être restauré d'ailleurs à Saint-Julien-le-Pauvre, à côté de la, pas très loin de la cathédrale, eh bien, dans le 5e arrondissement, eh bien, toujours, c'est immuable, le Christ est au centre, et à sa droite, il y a l'Ancien Testament qui se termine avec Jean le Baptiste, toujours, et le Nouveau Testament qui commence avec la Sainte Vierge et qui vient jusqu'à nous. Oui, nous l'avons oublié, mais Jean le Baptiste est notre lien qui nous permet de comprendre le Christ. Le Christ n'est pas descendu d'un astre incompréhensible. Il a été annoncé par les prophètes en Israël. Il est la réalisation d'Israël, l'achèvement de toutes les promesses d'Israël. Et c'est Jean le Baptiste qui en est le garant, lui qui est le plus grand des prophètes. On le surnomme même du nom d'Élie, c'est-à-dire le prophète réalisé, celui qui voit venir Dieu. Voilà pour Élie lui-même. Pardon, lapsus, pour Jean-Baptiste lui-même. Mais que nous enseigne-t-il de notre propre vocation ? Évidemment, la première chose qu'il nous enseigne, c'est d'aller vers le Christ. Il n'a vécu que pour cela. Il a été emprisonné, il a envoyé ses disciples voir le Christ. Il l'a désigné à son arrivée et jusqu'à sa mort, alors qu'il va mourir, il envoie ses disciples interroger le Christ pour qu'il se rende compte qu'il est le Baptiste, qu'il est le Christ, pardon. Eh bien, c'est notre rôle à nous aussi, les chrétiens. Nous qui sommes les témoins du Christ, comme Jean le Baptiste, eh bien, notre rôle est d'annoncer le Christ, mais pas nous-mêmes. C'est-à-dire, et c'est très difficile, il est très difficile d'annoncer Dieu que nous connaissons par le cœur et peut-être par la révélation intérieure et par la recherche, par la lecture de l'Écriture. Il est très difficile de l'annoncer sans nous annoncer nous-mêmes. C'est un vieux débat dans l'Église. Figurez-vous qu'au XVIIe siècle déjà, à la fin du XVIe même, le pape, donnant une bulle d'érection aux missions étrangères de Paris, c'est pas très loin, hein, c'est sur la rive gauche, donc c'est quand même à Paris, eh bien, ces missionnaires qui sont partis depuis 300 ans dans le monde entier, dans toute l'Asie, pardon, de Madagascar jusqu'au Japon, en passant par l'Asie du Sud-Est, par les Indes, eh bien déjà, à la fin du XVIe siècle, le pape leur donnait une consigne. Il vous faut annoncer le Christ. Il ne faut pas annoncer l'Europe et notre mode de vie. Il vous faut annoncer le Christ lui-même. Et c'est très dur. Car nous aussi, il nous faut annoncer le Christ, mais il me faut vous prêcher le Christ et il ne me faut pas vous prêcher Thierry Laurent. Et pourtant, je prêche à partir de là. Je prêche à partir de la personne que je suis, à travers mes goûts, mes pensées, mes actions. Mais celui qui vous sauve, c'est le Christ. Voilà qui je dois vous faire toucher. Et vous aussi, quand vous parlez de Dieu, vous avez forcément un point de vue, vous avez forcément une expérience, et c'est très bien. Il vous faut mener au Christ et ensuite disparaître. Il vous faut vous abaisser pour que seul le Christ vive. Alors, quelle est la vocation de Jean-Baptiste ? Elle nous révèle quelque chose de profond. Pourquoi a-t-il renoncé à se marier ? Je prends l'occasion, puisque vous le savez, en France, maintenant, on ordonne beaucoup ces jours-ci. L'archevêque de Paris ordonnera samedi prochain des prêtres pour notre diocèse. Mais beaucoup de diocèses ont ordonné déjà hier, ordonneront encore dans 15 jours. Enfin, c'est l'époque des ordinations. Quelle est cette vocation étonnante et particulière ? D'abord, je tiens à vous le rappeler, la vocation ordinaire de l'homme, c'est le mariage. C'est dans le cœur de l'homme, dans ma nature, il est inscrit que je dois me marier. Et c'est bon. C'est plus que bon, c'est-à-dire que naturellement, je suis appelé à me marier, et tout homme et toute femme est appelé à se marier, c'est-à-dire à transfigurer l'image du Christ de l'humanité qui est vraiment l'un et l'autre, unis. C'est ça la vocation naturelle. Et ceux qui ont cette vocation vont faire de cette vocation naturelle au mariage leur chemin vers Dieu, c'est-à-dire leur chemin surnaturel, leur vocation divine. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de dire que c'est une vocation divine. Parfois, quand on emploie le mot vocation, ah oui, les vocations, on pense alors aux prêtres ou aux religieux. Mais nous sommes tous appelés, l'a rappelé le Concile Vatican II avec une grande force, reprenant les mots de saint Pierre et ceux de saint Paul, hein, et ceux de saint Matthieu. « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, vous êtes appelés à connaître Dieu. » Donc nous avons tous la vocation à aller vers Dieu. Et la plupart d'entre nous l'ont dans le mariage, c'est-à-dire dans cet appel naturel de l'homme et de la femme qui est exaucé à un plan surnaturel en faisant un chemin divin. C'est ça la vocation. Alors pourquoi ne suis-je pas marié ? C'est une vraie question. Et je la pose, non sans ironie, mais vous le savez, dans une contradiction de notre temps. Pourquoi n'est-il pas marié ? Pourquoi est-ce qu'il ne se marierait pas ? Après tout, il y aurait plus de prêtres. Bon, ça déjà, c'est un bobard, hein ? Parce qu'il suffit de regarder les églises protestantes et elles manquent encore plus cruellement de vocation, si je ne parle pas des évangéliques, plus cruellement que nous. Donc, ce n'est pas une question de mariage. C'est une question de consécration totale. C'est vrai que c'est étonnant, cet appel qui vous fait abandonner votre vocation naturelle pour manifester seulement une vocation surnaturelle. Ce n'est pas normal en soi, hein ? Ce qui est normal, c'est que de mon appel naturel d'homme, je fasse un chemin de Dieu, une vocation surnaturelle. Voilà, l'appel que j'ai reçu a supposé que j'abandonne cette vocation naturelle de me marier et d'engendrer pour me consacrer entièrement au service de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les prêtres étaient mariés, mais, tout comme Zacharie l'a été quand il est allé au temple, on savait déjà que le service de Dieu est exclusif, et pendant qu'on servait dans le temple, c'est-à-dire 3 mois par an, dans un tirage au sort pour les grands prêtres, on ne vivait pas dans sa famille, on vivait dans le temple. Le Christ a inauguré une consécration permanente. Voilà pourquoi l'Église, dès le début, a choisi assez rapidement, de manière dogmatique au IVe siècle, mais l'a vécu immédiatement, de n'ordonner que des célibataires. Le don que je fais de moi-même m'établit comme un don supérieur. Attention, ce n'est pas moi qui est supérieur. Hélas, et peut-être heureusement, il y a parmi vous des gens qui sont bien supérieurs en sainteté que je ne le suis. Mais le don que j'ai fait est un don supérieur. Et c'est ça que vous êtes invité à espérer pour l'Église. Voilà pourquoi je prépare légitimement au mariage. Les esprits grossiers disent « Oh, pourquoi prépare-t-il au mariage? Il n'est pas marié. Alors, comment saura-t-il comment il faut faire ?» Mais très honnêtement, mes bien chers frères, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer comment il faut faire entre un homme et une femme pour vivre ensemble? Cela est une question naturelle qui se fait assez bien. Mon rôle n'est pas celui-là. Mon rôle est de vous témoigner d'un don total auquel tous sont invités à vivre. Tous sont appelés, les mariés comme les autres. C'est-à-dire une donation totale de vie. Ce que je signifie par ma situation anormale, si on veut bien, en tout cas, anaturelle. Voilà, pour aller au fondement de la raison du célibat apostolique. On pourrait en trouver bien des autres, bien sûr, mais je pense qu'ils sont vulgaires. Non pas qu'ils sont faux. Bien sûr, le fait que je ne sois pas marié, le fait que je n'ai pas d'épouse ni de famille à entretenir, fait que je vous coûte assez peu cher. Fait que je suis tout le temps disponible. Mais ça, ce sont des contingences matérielles sur lesquelles on pourrait passer. Enfin, sur lesquelles il faut quand même réfléchir. Je suis disponible 24 heures sur 24 parce que je n'ai pas d'enfant à m'occuper, parce que je n'ai pas d'épouse et pas de foyer. Mon foyer, mes épouses et mes enfants, c'est vous. Ce n'est pas une fonction administrative que j'exerce en fonction de vous. Je ne suis pas simplement l'administrateur de cette paroisse. Certes, il y a une fonction administrative dans mon travail. Ce n'est pas la plus drôle. Je préfère vous le dire tout de suite. La raison de ma présence, la raison que j'ai été donnée à vous, la raison pour laquelle vous m'appelez mon père ou monsieur l'abbé, parce que vous le savez, c'est la même chose, ou même monsieur le curé, c'est-à-dire celui qui prend soin de mon âme, c'est ce que ça veut dire, la cure, le soin. C'est parce que vous êtes ma part d'héritage. Vous êtes ceux qui me sont donnés. Priez, mes bien chers frères, avec une foi instante que jamais ne manque dans l'Église, la capacité de se donner entièrement, d'une manière folle, indépendamment de toute vocation naturelle, au bien du peuple de Dieu. Priez pour que ceux qui seront ordonnés cette année soient vraiment les images de Jean le Baptiste qui ne mènent qu'au Christ et qui se donneront tout entier dans une dévotion totale au peuple pour lequel ils ont été ordonnés. Amen.